Bonsoir mes frères et sœurs, quel bonheur de se retrouver dans la maison du Seigneur pour aller plus loin dans notre marche avec Dieu, car c'est, je crois qu'on est là pour ça, non? On veut aller plus loin, on a partagé pendant quelques semaines deux ou trois exhortations sur le fait qu'un chrétien doit être rempli de l'amour de Dieu, doit aimer l'amour de Dieu, mais également doit connaître la crainte de l'Éternel, et que ces deux vertus font qu'un homme ne peut pas faire autrement que de s'approcher de Dieu. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais ne s'éloignent de Dieu. Mais quelqu'un qui développe l'amour et la crainte s'approche de lui. Donc c'est la continuation, mais de notre côté à nous cette fois-ci, nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 10, où il nous est rappelé, une fois de plus, combien il est important de s'approcher de Dieu. On est là dans la maison du Seigneur, mais on peut être là d'une manière très religieuse, très superstitieuse, très superficielle, très loin de Dieu si on n'a pas envie d'obéir. Mais voyez, Hébreux chapitre 10, verset 19, on va aller jusqu'au verset 23, il nous est rappelé comment nous pouvons nous approcher de Dieu, pourquoi on peut s'approcher de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19. Donc c'est par rapport à toute l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi donc, Hébreux 10, 19, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Je le relis parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que si on peut s'approcher de Dieu, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Si on est couvert par le sang de Jésus-Christ, c'est exactement pareil que si on était dans le lieu très saint. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ce texte nous dit quoi? Eh bien que nous devrions nous approcher de Dieu. Est-ce que parce que je suis là ce soir, je m'approche de Dieu? Non, vous le savez. Il y a des gens qui sont à l'église et qui en vérité sont en train de s'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu et qui en vérité s'éloignent de Dieu. Donc, ce n'est pas l'apparence, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quand Jésus est mort au calvaire, il s'est passé quelque chose dans le temple, c'est que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Il s'est déchiré comment? Du haut vers le bas. Ça nous rappelle que ça vient de Dieu, que Dieu a déchiré ce qui empêchait l'homme d'entrer dans le lieu très saint. Vous savez combien de fois on entrait dans le lieu très saint par an? Une fois. Une fois, le souverain sacrificateur pouvait aller porter le sang sur la table pour que nous comprenions que c'est grâce au sang de Jésus qu'on peut pénétrer dans le lieu très saint. Donc, quand le voile, quand Dieu, un ange certainement, a déchiré ce voile de 5 cm d'épaisseur, c'est pas un petit rideau de cuisine, hein? Lorsque ce voile a été déchiré, Dieu enseignait aux hommes qu'à partir de ce jour où Jésus est mort sur la croix, les hommes pourraient s'approcher de lui. Pas dans un temple, dans un lieu très saint, mais que le temple aujourd'hui, à partir de ce moment-là, c'était quoi le temple de Dieu à partir de ce moment-là? C'était qui le temple de Dieu? Nous. C'est nous le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? D'ailleurs, le temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été détruit. Et les chrétiens, chacun, les chrétiens nés de nouveau, hein? Attention, parce que là aussi, des fois, on dit les chrétiens. Non, les chrétiens qui sont passés par la nouvelle naissance ont reçu le Saint-Esprit et donc sont des temples portatifs chacun. On est tous des temples, voilà. C'est une bénédiction et nous avons cet encouragement, cette liberté d'entrer. Nous devons le faire avec assurance, avec hardiesse. C'est rappelé souvent, approchez-vous. C'est une invitation. Elle revient constamment dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette invitation, quand même, elle est régulière. Et pourtant, combien la refusent, cette invitation? Donc elle existe, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous avez été lavé par son sang. Vous le réalisez, vous ne le réalisez pas, vous le sentez pas, ce n'est pas une question de sentir ou de ne pas sentir, c'est comme ça, c'est une vérité. Vous avez été lavé par le sang du Seigneur si vous vous êtes repenti, c'est une vérité. Il y a des gens qui disent « mais je ne le sens pas ». Moi non plus, je ne le sens pas. Mais c'est ce que Dieu dit. Dieu l'a dit. Vous croyez ce que Dieu a dit? Si vous ne croyez pas ce que Dieu a dit, je vais vous dire une chose, vous n'allez pas apprécier peut-être, vous êtes peut-être un gentil croyant, mais vous n'avez pas la foi. Ce que Dieu a dit, je le crois. Dieu demande que nous le croyons. Beaucoup de gens ne s'approchent pas de Dieu parce qu'en fin de compte, ils font à leur guise, à leur façon. Dieu nous demande de nous approcher de lui. Il est même dit dans la plénitude. Alors là, c'est peut-être là qu'il faut que nous arrêtions ce soir. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 22? Dans la plénitude de la foi. Alors on va rester là-dessus ce soir. Approchons-nous de lui dans la plénitude de la foi. Car vous le savez, Hébreux 11, 5, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Dans la version Darby, je l'ai prise pour un autre texte tout à l'heure, il est impossible de lui plaire. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est dans la maison de Dieu, parce qu'on lit la Bible, qu'on a la foi. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. Ils croient en Dieu, oui, ils croient en Dieu, ils croient qu'il y a un créateur, mais ils ne croient pas la parole de Dieu. Sans la foi, en plus c'est simple, en même temps c'est clair. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Alors si d'un côté, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a été très sévère, avec qui? Avec qui il a été sévère? Avec les pharisiens. Pourquoi? Parce que c'était des hypocrites. Le Seigneur a été d'une sévérité pas croyable envers les hypocrites. Mais de l'autre côté, il a été aussi clair, sévère, on peut le dire, envers ses enfants lorsqu'il manquait de foi. Vous êtes d'accord que Dieu vous montre si vous avez ou si vous n'avez pas la foi? Oui, bien sûr. Le manque de foi est grave. Vous comprenez, aimer Dieu, ça veut rien dire, aimer Dieu. Enfin, ça devrait tout dire. Mais il y a plein de gens qui disent, moi une fois j'ai été repris, je vous l'avais dit il y a quelques années, si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez Dieu. Et quand je l'ai dit, je me suis senti repris. Parce que les gens, et c'est pas vrai, la Bible dit, vous aimez, qu'on aime Dieu si quoi? Si on va à l'église? Non, la Bible dit qu'on aime Dieu si on garde ses commandements. Vous comprenez? On trompe les gens. C'est pas parce qu'on va dans une église qu'on aime Dieu. On aime Dieu quand on obéit à ses commandements. Donc le manque de foi, c'est quelque chose de grave, parce que lorsque nous ne croyons pas Dieu, nous le faisons menteur. Et laissez-moi vous dire que vous ne vous mettez pas du côté de Dieu quand vous le faites menteur. C'est comme une insulte. Je voulais parler ce soir des insultes vis-à-vis de Dieu, mais quand on fait Dieu menteur, laissez-moi vous dire qu'on ne se met pas en grâce avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si vous lisez le prophète Malachie, je vous encourage à le lire. Dans le prophète Malachie, on voit combien le cœur des hommes, c'est des chrétiens, des croyants, à l'époque ce n'est pas des chrétiens, des croyants, c'est le peuple d'Israël, et ils sont tout le temps en train de s'opposer à Dieu. Par exemple, c'est écrit, vous dites, où est le Dieu de justice? Où est le Dieu de justice? Si Dieu était juste, il ne se passerait pas ceci. Si Dieu était juste, il ne se passerait pas cela. Et regardez comment ils sont en train de s'opposer à Dieu avec des questions. Et si vous lisez le livre de Malachie, j'espère que vous ne vous y retrouverez pas, parce que ça prouve que vous n'allez pas bien spirituellement. Mais une chose est certaine, nous n'avons pas à contester avec Dieu. Quand on ne comprend pas, on dit « Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ce qu'il y a, montre-moi ce que je dois voir et comprendre. » Mais c'est une insulte que de faire Dieu menteur. Et croyez-moi, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui, sans s'en rendre compte, font Dieu menteur, parce que ce que Dieu a dit, ils le contestent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Dieu a-t-il réellement dit? C'est peut-être pas prononcé sous la même forme, mais en vérité, c'est ce qui se passe. Et les gens contestent avec Dieu. Et il y a un verset qui dit « Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur ». Donc, il faut que notre foi soit dans la plénitude. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Alors, on va voir ce soir si notre foi, elle est petite ou elle est grande. Alors, premier verset, Matthieu 6, 25. On va lire quelques versets. C'est très simple. Ce que je fais, c'est le béaba. C'est pour les chrétiens qui sont convertis depuis 24 heures. Alors, est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Il y a plus de 24 heures. Il y a moins de 24 heures. S'il y a moins de 24 heures, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. Matthieu chapitre 6. Le sermon sur la montagne. Tout un texte à partir du verset 25 jusqu'au verset 34 sur l'inquiétude. L'inquiétude, tiens, bon, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Mais enfin, pour ceux qui peuvent se sentir concernés. L'inquiétude, ce sont des commandements dont Dieu dit « Je ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, pour la nourriture, pour le logement. » Ce sont des choses que Dieu donne. Car, regardez bien, il est dit au verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Il faut que vous vous souveniez, mes frères et sœurs, que Dieu sait ce que vous avez besoin. Mais, au verset 30, c'est le verset qui nous intéresse dans ce contexte, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Donc, qu'est-ce que dit ce texte? Je le résume, je ne le lis pas tout. Que quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui a une petite foi. Il faut l'accepter. Peut-être que c'est votre cas. Eh bien, acceptez-le. Ne vous débattez pas. Si vous êtes tout le temps en train de vous inquiéter du lendemain, en train de vous inquiéter, mais qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que j'aurai des vêtements? Est-ce que j'aurai de la nourriture? Acceptez-le. Si vous vous inquiétez de ça, votre foi, elle est petite. Il faut régler ce problème. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Seigneur. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Vous comprenez bien que le but, c'est d'avoir une foi vivante. Une foi, quand on chantera « Je suis qu'un vase », parce qu'il y a des vases fragiles, mais il y a des vases qui sont costauds. Il y a des vases dans une maison qui sont en terre, qui sont en bois, mais il peut y avoir des vases en quoi, dit la Bible. En quoi il peut y avoir des vases? En pierre, en quoi? En quoi encore? Il y a un Timothée ou deux Timothée chapitre 3. Des vases en or. C'est écrit qu'il y a des vases en or dans une maison. Des vases d'argent, c'est du costaud. Hein. Donc ça prouve bien que notre foi, elle peut s'améliorer. L'or parle toujours d'intégrité. Plus nous sommes intègres, plus nous sommes comparables à de l'or. Donc, si notre foi, elle est petite, eh bien ce soir, je dois dire, je prends la décision de ne pas m'inquiéter. Tout à l'heure, ce matin, je lisais des textes sur les conseils, puisque sur la crainte, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. C'est un choix. Je choisis de ne pas m'inquiéter, parce que mon Père, il sait ce dont j'ai besoin. Attention, il y a une petite, il ne faudrait pas qu'elle se coince les doigts. Ouais. Matthieu chapitre 6, verset 25. On y va? Alors, c'est celui qu'on vient de lire. Matthieu 8, verset 23. Matthieu 8, verset 23. C'est une autre situation, c'est un petit peu plus délicat. Là, ils sont dans une situation que, là, ce n'est plus les affaires courantes, excusez-moi, le vêtement, le logement, la nourriture. Là, c'est une épreuve. Verset 23, Matthieu 8, il monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Je vous signale que Dieu n'a pas changé. Il peut calmer les vents et la mer. Donc, le Seigneur leur dit, gens de peu de foi, ou dans certaines versions, gens de petite foi. Pourquoi avez-vous peur? Alors d'un côté, il y a l'inquiétude, maintenant c'est la peur des tempêtes. Alors est-ce que c'est un peu plus normal là, d'avoir peur lorsqu'une tempête se présente? Oui? Est-ce qu'il y en a des tempêtes? Là, il y en a. Je ne parle pas des tempêtes géographiques, enfin, comment on appelle ça, climatiques, je parle des tempêtes intérieures. Les tempêtes qu'il y a là-dedans, ou là-dedans. Ça, des fois, ça, il y a du vent dedans, non? Ouais. Et il faut prendre cette victoire dans ces tempêtes. Je sais. Quand on est dedans, c'est moins évident. Mais quand même, le Seigneur, il est là. Est-ce que vous croyez que Dieu est là avec vous? Le premier texte qu'on a lu, je l'ai pris bien sûr à bon escient pour que nous comprenions bien que lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ ou si vous avez abandonné Jésus-Christ, c'est clair que là, il y a une autre démarche à faire. Mais si vous êtes avec Jésus-Christ, le Seigneur est à l'intérieur de votre barque. Vous entendez ? Il ne dort pas. Parce que là, il dormait, bien sûr, parce qu'il fallait bien qu'une situation se présente. Mais la Bible dit que celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur, il n'est pas un homme. Il est tout puissant. Donc, que les tempêtes que nous sommes en train de traverser ne nous affligent pas et n'amenuisent pas notre foi, mais au contraire, sachez qu'il a le pouvoir de calmer toutes les tempêtes. Vous devez le croire. Comment ? Par un acte de foi. Je sais, mais je crois qu'on peut faire des expériences avec Dieu. Vous n'avez pas envie de faire une expérience avec le Seigneur ? Dans un domaine ou dans un autre, c'est important. Un peu plus loin, dans Matthieu au chapitre 14, c'est une autre tempête. Là, Jésus n'est pas dans la barque, Jésus les rejoint. Parce que croyez-moi, Jésus peut vous rejoindre, même si vous l'avez, vous, quitté. Il y a des gens qui ont Jésus avec eux, il y a des gens qui n'ont pas Jésus avec eux. Mais Jésus fera tout pour les rejoindre. Croyez-moi, et si vous ne le laissez pas vous rejoindre, vous le regretterez bien sûr. Matthieu chapitre 14, verset... Alors, on va prendre à partir du verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est une histoire merveilleuse, ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une tempête en pleine nuit, et Jésus qui les rejoint marchant sur l'eau. Vous croyez que c'est vrai, ça, ou c'est des blagues pour les enfants ? Quand les disciples, verset 23, verset 28, Pierre leur dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous auriez fait cette prière, vous ? Vous auriez fait cette prière ? Moi, je n'aurais même pas pensé. Moi, j'aurais été content de le voir arriver. Je me serais accroché à ma planche, je pense, mais bon, c'était Pierre. Chacun a sa façon de réagir. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. C'était quand même une belle expérience, non ? Bon. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque. Bon, la suite, ce n'est pas étonnant. Et le vent, c'est ça. Donc Jésus nous rejoint lorsque nous sommes partis sans lui, lorsque nous avons fait certaines erreurs. Il nous rejoint. Il nous rejoindra toujours. Si vous avez lu la Bible, Dieu rejoint toujours ses enfants. Vous l'avez lu ça ou non ? Il n'y a que les rétrogrades, ceux qui délibérément abandonnent Dieu. Le Seigneur ne va pas forcer. Dieu ne contestera pas. Toujours. Mais mes frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, Dieu rejoint toujours ses enfants. Toujours, c'est comme ça. Donc il les rejoint, mais Pierre s'entend dire, homme de peu de foi. Peut-être que nous, on aurait dit, non, mais quand même, tu plaisantes. Homme de peu de foi, il voit ça, il veut marcher sur l'eau. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont marché sur l'eau. Il marche sur l'eau, et quand même, comme il voit, quand même, il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas s'il a réfléchi à ce qu'il faisait. Une chose est sûre, il a commencé à s'enfoncer. Homme de peu de foi. Alors c'est vrai que, vous voyez, les remarques où Jésus va dire aux chrétiens « homme de peu de foi », c'est relatif en fin de compte. Vous voyez ? On comprend pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement, ça se comprend facilement, d'accord ? Après, les deux autres étapes, mais enfin, c'est encourageant en même temps, parce qu'on se dit « mais dans tous les domaines, je peux avoir une foi qui grandit ». C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est là. Avoir une foi qui grandit. Matthieu chapitre 16, un autre texte. C'est bien de voir tous ces textes. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention, je le pense. Tous ces textes où il y a un manque de foi. Alors là, c'est chapitre 16, verset 8. Regardez, c'est par rapport au levain des pharisiens, à l'hypocrisie. C'est un problème, ça. C'est un problème. Alors, on va lire à partir du verset 6, Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Vous voyez ? C'était de l'hypocrisie, ça. Vous voyez comme quoi, il faut faire attention à la religiosité. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'ayez pas pris des pains ?» Vous voyez, Jean de petite foi, dira la version Darby. Un peu plus loin, on continue. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, il y a il y a une situation là terrible. Le fils d'un homme est tourmenté par le démon. Ils vont voir les disciples. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus intervient. Matthieu chapitre 17, verset 17. Alors regardez bien cette expression. Elle est sévère. Elle est très sévère. Elle est adressée aux chrétiens, aux apôtres. Race incrédule et perverse. Alors perverse, c'est pas de la perversité morale. Quand on parle, nous, de perversité, c'est souvent la perversité morale. Mais aussi, il y a la perversité spirituelle. Vous comprenez? Vous comprenez bien que les apôtres n'étaient pas pervers moralement. Mais il y avait un problème de confusion spirituelle. Donc, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? On perçoit dans la teneur de ces paroles beaucoup, beaucoup de sévérité. Donc, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Donc, qu'est-ce que dit Jésus ? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre manque de foi. Alors, on part du plus simple, c'est-à-dire du vêtement, de l'inquiétude. On en arrive à des situations beaucoup plus sévères. Là, il n'est pas parlé de petite foi, là, il est parlé d'incrédulité. On voit bien que dans tous les domaines de notre vie, notre foi peut défaillir. Surtout, mes frères et sœurs, que Dieu, il agit par la foi. Vous vous rappelez, chaque fois que Jésus guérissait un homme, il ne disait pas « Je t'ai guéri, Dieu t'a guéri ». Qu'est-ce qu'il disait ? « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Vous vous rendez compte ? Est-ce que Jésus aurait pu dire « Je t'ai guéri, c'est moi qui t'ai guéri, je suis le Fils de Dieu ». Il aurait pu le dire ? Bien sûr. Et non, il mettait la bénédiction sur la foi de la personne. Ça nous indique combien notre participation, même si elle est minime, est archi-importante. Il vous sera fait selon votre foi. Ce que nous recevons, nous le recevrons par la foi. Alors, on va voir un autre texte. Et ce matin, en voulant, parce que souvent je prends deux versions ou trois, et ce matin, j'ai été choqué presque. Parce que j'ai pris la Darby et j'ai lu un texte dans Luc, verset 5, verset 17. J'aimerais que vous le lisiez avec moi, mais je vais vous le dire dans la version de Darby. Luc chapitre 5, verset 17. J'ai été étonné parce qu'en plus, c'est ce que j'avais compris. Je me suis dit, mais est-ce que vous allez comprendre. Luc chapitre 5, verset 17. Ce soir, je ne voudrais pas être long. Je voudrais que vous compreniez une leçon. C'est qu'il nous sera toujours fait selon notre foi. Et si elle est petite, il faut qu'elle grandisse. Luc chapitre 5, verset 17. Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait. Donc Jésus est là, il enseigne. Des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Il y en a qui ont la version Darby ? Vous avez eu, c'est ça. Je le relis. En plus, j'ai voulu lire dans la Darby ce matin ce texte parce que j'avais compris ce qu'il voulait. Donc, ces gens sont là, des docteurs, des pasteurs, des pharisiens, etc. Mais en vérité, le Seigneur, il était là pour les guérir à eux. Vous avez compris ? Je relis la fin de la phrase. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Vous avez autrement, vous commencez la... Hein ? Jésus était là pour les guérir à eux. Ce soir, le Seigneur, il est là pour quoi, au fait ? Pour nous bénir. À nous. Un pécheur entre dans l'église, là, qui vient crier à Dieu, « Aie pitié de moi, Seigneur, que ce soit un riche, un pauvre, un clochard, un notable. » Est-ce que vous pensez comme « Seigneur, sauve-le, guéris-le. » Est-ce que Dieu peut le sauver ? Oui. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut nous guérir aussi à nous ? Le Seigneur, il était là pour les guérir à eux. Parce que dans ce groupe de pasteurs, de pharisiens, etc., il y avait certainement quelqu'un de malade, puisqu'il est dit, le Seigneur était là pour les guérir. Mais c'est un homme qui est arrivé dans d'autres conditions, c'est un paralytique qu'ils ont fait descendre par le toit, qui lui a été guéri. Et qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin, au verset 20 ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Regardez bien. Et Jésus Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il voit? Voyant leur foi, il dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Écoutez, mes frères et sœurs, le Seigneur, il voit, il nous voit. Est-ce que vous savez que Dieu vous voit? Il voit si on était là, si on est là d'une manière religieuse, si on est là d'une manière superstitieuse, si on est là parce qu'on a pris l'habitude le mardi soir de venir, ce qui n'est pas forcément mauvais, etc. Jésus, il voit la foi de ces gens. Il était venu pour guérir les pharisiens qui étaient là pour discuter, ça discutait beaucoup, mais ça ne servait à rien. Enfin, pas pour Jésus, pour ces gens-là. Mais il y a un homme, il y a un groupe d'hommes, cinq hommes en vérité, quatre gars, quatre amis, et le paralytique. Et il est dit, Jésus a vu leur foi. Pourquoi il a été béni cet homme? Eh bien, parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Et ce soir, c'est pareil. Est-ce que nous mettons notre foi dans le Seigneur? Il savait que Jésus guérissait. Il savait, tout le monde le savait que Jésus guérissait. Les docteurs le savaient, les pharisiens le savaient. Ces quatre amis-là le savaient aussi, le paralytique l'avait entendu aussi. Nous le savons. Est-ce que vous croyez que Dieu guérit? Ils avaient appris le psaume 103 par cœur, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. » Ils le savent ça, on peut réciter des trucs par cœur. Mais est-ce que Dieu peut guérir de toutes les maladies? Eh oui. Eux, les scribes, ils ont raisonné. D'ailleurs, quand Jésus a parlé de pardon, vous avez vu? Ils raisonnaient en eux-mêmes. Mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Ils raisonnaient. Quand on raisonne avec Dieu, ce n'est pas bon. Quand Dieu dit qu'il guérit, mes frères et sœurs, il guérit. Moi, je trouve qu'il a payé assez cher pour qu'on puisse être guéri. Quand Jésus nous parle de guérison, c'est qu'il veut guérir. Il était là pour les guérir. Ils ont raisonné et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont passés à côté. Vous ne croyez pas que c'est dommage? Ils étaient là avec le Seigneur Jésus. Franchement, quelle bénédiction. Vous n'auriez pas aimé être à une réunion où Jésus était là, personne? Allez, répondez. Vous auriez pas. Si je vous disais ce soir, écoutez, je prêche, mais Jésus pourrait prêcher à ma place. Qu'est-ce que vous préférez, mes frères et sœurs? Moi, je vais vous dire, moi, je sais ce que je préférerais. Mais le premier, mais franchement, le Seigneur Jésus était là. Et ils sont passés à côté. Ils raisonnaient, mais oui, mais est-ce que Dieu est là? Oui, d'accord, ils répètent en boucle que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Oui, d'accord, mais c'est lui. C'est pas lui qui le dit. C'est Dieu qui l'a dit. La foi, je le crois. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur, il est dans le cœur de ses enfants. Nous sommes son temple. Et nous devons croire ces choses. Et eux, bien sûr, les autres, ils étaient dans l'étonnement. Ils glorifiaient Dieu. D'ailleurs, je ferai remarquer au verset 26, ce qui corrobore tout ce que j'ai dit depuis là deux ou trois, quatre jours. Ils furent tous saisis d'étonnement et glorifiaient Dieu. Et ils furent remplis de crainte. Vous avez vu quand Dieu est là? Quand Dieu est là, il y a du respect pour la parole. Vous vous rappelez le brigand qui se repent? Qu'est-ce qu'il dit à l'autre qui est en train d'insulter Dieu? Il l'insultait comment? En lui disant, descends, si t'es le Christ, descends et descends-nous, bien sûr. Il appelle ça une insulte quand on se moque de Dieu. Et l'autre qui est en train de se repentir dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Vous voyez? Quand on s'approche de Dieu, il y a un respect profond, il y a une crainte des choses de Dieu, il y a un respect de la parole. Si Dieu dit qu'il est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Qu'est-ce que vous préférez écouter? Vos sensations, vos émotions, ce qu'on vous a enseigné jusqu'à aujourd'hui, si même votre religion vous avait dit le contraire, mais que la Bible dit autrement, qu'est-ce que vous allez prendre? Ah, moi, vous savez, mes parents, ils m'ont enseigné ça, je ne changerai pas de la religion de mes parents. Ah ben oui, ben, ne changez pas. Mais c'est quoi le plus important, la parole de Dieu ou la religion de vos parents? Pour peu que la religion de vos parents soit complètement à côté. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les pharisiens? Et pourtant, je le répète, pour être pharisien, il fallait connaître les cinq premiers livres de la loi, de la Torah, par cœur. Il faut le faire. Moi, j'en connais des centaines de versets. Mais là, c'est des milliers. Par cœur, ils les connaissaient. Eh bien, voyez, c'est pas parce qu'on l'a dans la tête qu'on l'a dans le cœur. Ça ne servait à rien. Il vous sera fait selon votre foi. Il n'est pas dit, il vous sera fait selon votre mémoire. Il y a une autre femme, plus loin, dans l'évangile de Marc. On peut le lire, on va terminer avec ce texte, pour que nous comprenions bien que Dieu répond à la foi, uniquement à la foi. Dans l'évangile de Marc, c'est dans Matthieu aussi, mais dans l'évangile de Marc, alors, Marc, je crois que c'est au chapitre 7. Oui. Il y a cette fameuse étrangère. C'est une phénicienne, une syrophénicienne, une cananéenne, dont une arabe. Dans le contexte, imaginez-vous dans le contexte, elle apprend que Jésus est à Tyr, à Sidon, et elle va courir vers lui. Elle va courir vers lui, et vous la connaissez cette histoire, qui ne la connaît pas, hein ? C'est une femme, elle est dans la souffrance, verset 25, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Marc 7, verset 26. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Là, c'est grave, parce que est-ce qu'elle pouvait se sentir insultée? Ben oui. Le Seigneur est en train de la traiter de petits chiens, qu'elle est en train de chercher la bénédiction à laquelle elle n'a pas droit. Elle avait entendu parler de Jésus. Parce que quand vous regardez le contexte, à Jérusalem, quand il bénissait, il y avait des gens de Tyr, de Sidon. Donc, il y avait des gens de où elle habitait qui avaient dû être au bénéfice de la grâce de Dieu. Elle avait entendu parler. Elle savait qui il était. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Dieu? Les gens disent, moi je peux vous dire, plus ça va. Et je le vois même chez les pasteurs. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand on dit que Job était orgueilleux, par exemple, que Joseph était orgueilleux, écoutez-moi, les pasteurs, ils n'ont pas lu la Bible, c'est clair. Moi, je peux vous le dire. Ou alors, ils lisent des trucs sur Internet qui ça ne correspond à rien. Cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Et elle savait que Jésus est un Dieu qui délivre. Elle le savait. Et quand Jésus l'éprouve, parce qu'il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, pour nous, ça fait un peu philosophique et poétique, mais croyez-moi, dans le contexte, ça frisait l'insulte. Et cette femme, elle aurait pu partir, parce qu'en plus, les pasteurs n'avaient pas été tendres avec elle. Jésus ne lui répond pas. Quand il lui parle, c'est un peu compliqué. Mais elle se prosterne devant lui. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas où vous en êtes, parce que là, la réunion, c'est une chose. Mais quand vous allez partir, déjà dans votre voiture, peut-être ce soir, sous votre couette, j'en sais rien, comment vous êtes spirituellement? Et vous avez vu ce qui est écrit au verset 29? Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va. À cause d'une parole. Donc, à cause de la foi de cette femme. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir Dieu agir, il faut agir selon la foi. Dieu n'agit pas selon... Il y a des gens, ils pleurent. Seigneur. Écoutez-moi, vous pouvez pleurer tant que vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Mais il n'est pas dit qu'il vous sera fait selon vos pleurs. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de s'apitoyer. Vous imaginez que vous allez incliner le cœur de Dieu par vos apitoiements? Il y a des gens, ils ne font que ça. Ils ne font que se plaindre. Si c'était écrit, vous sera fait selon votre plainte, je peux vous dire qu'il y a des gens qui auraient été exaucés. Il vous sera fait selon votre foi. Dieu ne répond pas à l'apitoiement. Dieu ne répond pas à cette misère, à cette plainte, à la religiosité sentimentale, aux prières rabâchées. Il y a des gens, mais je prie, je n'arrête pas de prier. Oui, mais il vaudrait mieux que vous arrêtiez. Et commencez à croire. Il y a des gens qui murmurent, pareil. Non, écoutez-moi, même à l'espérance, il n'est pas dit qu'il vous sera fait selon votre espérance. Alors, je ne parle pas de l'espérance biblique, parce que l'espérance biblique, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est bien l'espérance? Bien sûr. Mais il ne faut pas dire, oh, j'espère. Il y a des gens, quand ils disent j'espère, ça exprime totalement un manque de foi total. J'espère que ça marchera. Je prierai pour vous, ma soeur. Oh, j'espère que Dieu vous entendra. Mais, vous voyez? Ils espèrent que ça va marcher, mais ce n'est pas de l'espérance. Parce que l'espérance, c'est que vous n'avez pas peur de l'avenir. Voilà, c'est ça l'espérance. Je sais que Dieu pourvoira. Tout à l'heure, nous avons entendu une prophétie qui nous rappelait de ne pas porter des regards inquiets, que Dieu nous soutiendrait jusque dans notre vieillesse. C'est écrit ça dans la Bible? C'est écrit où? Ésaïe? C'est bien. Qui c'est qui a dit Ésaïe? Ésaïe combien? Ah oui, ça ne suffit pas. Ésaïe 45, je crois. Que Dieu nous soutiendra jusque dans notre vieillesse. Voilà, ça c'est l'espérance. Vous le croyez? Mais la foi, mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Alors il faut accepter que le Seigneur nous dit petite foi. Alors quand ça concerne le vêtement, tout ça, mais déjà c'est peut-être inquiétant de s'inquiéter. dans le sens de dire, mais si je m'inquiète pour le vêtement, pour la nourriture, c'est que je suis vraiment au niveau le plus bas. Alors, Seigneur, aide-moi. L'apôtre est formel. Le Seigneur, il est formel. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'apôtre Jacques enfonce le clou en disant, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça ne peut pas être plus clair. Il faut croire ce que Dieu dit. Vous le croyez ce que Dieu dit ? Est-ce que c'est ça la foi ? Dieu l'a dit, je le crois. Alors peut-être qu'il faut reméditer ces textes, tout simplement. Tiens, mais je vais méditer, Jacques, c'est où ça, Jacques, chapitre 1, verset 6, je crois. Eh bien, je vais le méditer. Parce que c'est quand même, ça ne vaut pas la peine de méditer ces choses, hein ? D'y réfléchir. Pourquoi c'est écrit ? Parce que Dieu veut que nous le sachions, donc ça vaut la peine de le méditer. Ça vaut la peine de reméditer ces versets qu'on a lus ce soir ? Ou est-ce que vous vouliez juste une exhortation pour vous faire du bien ? Mais non, je vais réfléchir à ces choses. Si Dieu répond à la foi, il faut que je m'inquiète de savoir où j'en suis au niveau de la foi. On a parlé dans les parties du plus bas, mais jusqu'au plus haut. Mais franchement, ça vaut quand même la peine de réaliser ces choses. Approchons-nous avec assurance dans la plénitude de la foi. Si je m'approche, oh, je prie, je sais, bon, je l'entends, des chrétiens, hein, je ne sais pas si Dieu m'entend. C'est la foi, ça. Et il dit, oh, j'en ai marre de prier. Ah, mais c'est sûr qu'en faisant comme ça, vous n'allez pas vous approcher de Dieu. Moi, je n'oserais pas le dire. Vous voyez, je vais vous dire la vérité. Je n'oserais pas le dire parce que je sais que je parle contre Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je n'oserais même pas le dire. Vous me suivez dans mes propos ? C'est une question de respect. Parce que Dieu dit qu'il entend les prières. Et je n'ai pas envie qu'on dise, Monsieur Gault, il fait Dieu menteur. C'est ridicule en plus. Parce que je peux vous dire que ça nous éloigne de Dieu. Et il faut dire, Seigneur, tu l'as dit, je veux le croire. Et la question de Jésus, elle est sérieuse. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors la première chose à faire, comme je le disais tout à l'heure, quand on a commencé la réunion de prière, on va le lire pour terminer. On a commencé avec, on termine avec, dans Éphésiens au chapitre 5, C'est comprendre la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est la première chose à faire. Que je comprenne la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 17. En plus, c'est dit dans un contexte où les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, parce que ça ne sert à rien de prier pour prier. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la volonté du Seigneur ? Dieu ne veut pas que notre foi, elle soit petite. Je ne parle pas de... La qualité n'est pas une question de quantité. Puisque Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous avez déjà vu un grain de moutarde ? Ce n'est pas plus gros qu'une pellicule de cheveux. Et pas plus lourd. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de quantité. Quand Jésus dit, augmente la foi, c'est une question de qualité. C'est-à-dire, Dieu l'a dit, c'est pour ça, je veux comprendre quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que si vous vous inquiétez de rien, votre foi, elle est petite, et vous allez passer à côté, comme ces pharisiens, Jésus était rentré dans leur synagogue pour les guérir. Ce n'est pas une synagogue, c'est une maison. Il est rentré dans une maison pour guérir ces gens. Parce que l'on soit pasteur, que l'on soit religieux, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Il était là pour les guérir. Et ils n'ont pas fait autre chose que de murmurer. Alors mes frères et sœurs, on va fermer les yeux quelques instants. J'aimerais vraiment que puissions dire, mais Seigneur, il faut que je... Je ne sais pas si vous avez pris des notes, si vous avez noté ces textes. Mais quand même, ça ne vaut pas la peine de les reprendre ces textes. Car... Que ce soit à partir de l'inquiétude, que ce soit par rapport à des délivrances de gens qui sont possédés, que ce soit des tempêtes en mer ou autre, nous avons un Dieu qui est capable d'intervenir. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs ? Rien n'est impossible à Dieu. Alors on va fermer les yeux, c'est important. que nous répondions à cette prédication. Peut-être que vous êtes là dans l'inquiétude parce que vous avez peur du lendemain. On l'a lu. Votre Père, si vous avez accepté Jésus. Si vous n'avez pas accepté Jésus, repentez-vous, donnez-lui votre cœur, venez au calvaire, acceptez son sang précieux. Mais une fois que vous aurez fait cela, vous serez son enfant. Alors, si vous êtes son enfant, Jésus a dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. C'est la parole, c'est pas à moi, moi Gérard. Dieu sait ce que tu as besoin. Il le sait. Jeune homme, tu aspires au mariage. Dieu sait la jeune fille qu'il te faut. Il la connaît déjà. Jeune fille, c'est pareil. Dieu connaît le jeune homme dont tu as besoin pour conjuguer ta vie, pour avoir un couple. Dieu sait le travail qu'il te faut. Dieu sait qui sera ton prochain patron. Dieu sait ce que tu as besoin. Alors arrête de t'inquiéter. Dieu sait si ta fille, elle est liée par le diable. Dieu peut la délivrer. Dieu veut la délivrer. Fais-lui confiance. Alors qu'il nous ait fait un reproche ce soir avec nous disant que tu as une petite foi, eh bien merci Seigneur. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. Si ces choses sont écrites, c'est pas pour qu'on se moque de Pierre qui s'est enfoncé. Non. C'est pas écrit pour qu'on se moque des gens. Ces choses-là, elles ont été écrites pour nous enseigner et nous bénir. Vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est sérieux, on n'est pas là à l'église pour avoir un beau sermon. On est à l'église parce que Dieu veut que notre foi grandisse. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, je veux prendre des décisions. Ces textes, je vais les lire, je vais les relire, je vais y réfléchir, je vais les méditer, je vais les étudier. Mais il est hors de question que ma foi reste au minimum. Cette foi, je veux qu'elle grandisse. Alors, on va prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux me lever, je veux prendre position, je vais lire ces textes. Mes frères et sœurs, votre Père, il sait. Votre Père céleste, il le sait. Vous le croyez, ça? C'est qui a dit ça? C'est moi qui le dis ou c'est Jésus qui l'a dit? Alors, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je vais me débarrasser ce soir de l'inquiétude par rapport aux vêtements, au travail, au logement, aux affaires courantes, je vais m'en débarrasser de ça. À la tempête que je traverse en ce moment, Seigneur, tu es dans ma vie. Alors levez-vous, peut-être quelqu'un éprouve le besoin. Si vous éprouvez le besoin, parce que des fois on a besoin de faire un acte de foi, ben levez-vous. C'est important de dire, moi je veux être à côté du Seigneur. Je veux être à côté de lui. Je m'adresse surtout à ceux qui s'inquiètent. Si vous vous inquiétez pour une affaire, prenez cette victoire. Prenez cette victoire. Relisez Matthieu 6 pendant 8 jours. Pendant un mois, mais pendant un an, s'il le faut, tous les matins, qu'est-ce qui vous interdirait de lire Matthieu 6, oui, pendant un an, tous les jours? Moi, je prends un cachet pour l'attention depuis 3 ans, tous les jours, et je ne l'oublie pas. Qu'est-ce qui empêcherait qu'on prenne ce médicament tous les matins? Alors prions, mes frères et sœurs, prions. Prions. Notre Père, tu as eu dans ta grâce la bonté de nous laisser ta parole. Jamais, Seigneur, nous ne te remercierons assez d'avoir permis en plus que nous l'ayons dans notre langue. Merci, Seigneur. Ce soir, tu nous rappelles au travers de ces textes, oui, que sans la foi, on ne peut pas t'être agréable. Et nous voulons t'être agréable, Seigneur. Nous voulons que tu trouves du plaisir en nous, lorsque tu nous regardes, lorsque tu nous vois face à toutes les choses que nous devons traverser. Oui, notre Père, tu sais ce dont on a besoin. Tu vois les bien-aimés qui se sont levés. Seigneur, fais leur grâce. Nous sommes devant toi, Seigneur. Tu es là pour bénir. Tu étais là pour bénir ces pharisiens qui se moquaient de toi. Tu voulais les guérir. Seigneur, tu nous vois parfois dans notre esprit religieux, dans notre esprit étriqué, et nous savons que tu es là pour nous guérir malgré tout. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de ne pas passer à côté, de rentrer chez nous, de poursuivre ta parole, de laisser ta parole nous enseigner. Apprends-nous à méditer, Seigneur. Apprends-nous à méditer ta parole, afin que nous ne passions jamais à côté de ce que tu as prévu de faire. Car nous le savons, tu ne changes pas, tu es là pour nous bénir. Merci, Seigneur Jésus. Amen.